Ah, merci. Je ne sais pas si nous marchons comme nous avons chanté. Hein. Si on essaye, c'est vrai. Il y a parfois tant de choses qui viennent obstruer notre marche. Mais en tout cas, le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous soyons joyeux. Hein. Que nous soyons persévérants et joyeux, dit l'apôtre Paul. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans Philippiens. On continue notre étude du livre de Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3. Et nous avons considéré la semaine dernière l'ambition de l'apôtre Paul qui était de connaître Jésus-Christ, hein, de connaître expérimentalement, le connaître jusqu'à expérimenter la puissance de sa résurrection, on avait dit, hein, la communion même aussi de ses souffrances et la conformité à sa mort. Donc nous voulons lire encore ce qu'il dit dans ce chapitre 3 et qui est la parole de Dieu, donc Philippiens chapitre 3. Et nous allons lire à partir du premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, et qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Jusqu'ici notre lecture. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous conduire par ton esprit, d'illuminer nos cœurs afin que nous saisissions les choses qui viennent de toi. Donne-nous des cœurs réceptifs, mais donne-nous aussi des cœurs obéissants pour mettre ta parole en pratique, à la gloire de ton nom. Amen. Je ne sais pas si vous avez des ambitions, hein, si vous avez déjà eu des ambitions, l'ambition de faire quelque chose. Hein. Peut-être l'ambition de jouer du piano, hein, de pouvoir apprendre le piano. Il y en a qui s'y sont mis, parfois plus tard que d'autres, hein, mais c'est une bonne chose, hein. Ou alors l'ambition de devenir un médecin, si vous êtes jeune, vous dites voilà, je veux faire des études médicales, et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais vous pouvez, en regardant autour de vous, voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà été animées d'ambition et qui n'ont pas pu réaliser vraiment cette ambition. Et quelle en est la raison? Bon, parfois ça peut être un manque de capacité, mais souvent dans beaucoup de choses, c'est parce que ces personnes se sont juste contentées d'avoir une ambition, sans mettre en œuvre ce qui pourrait leur permettre de réaliser cette ambition. Et ici, l'apôtre Paul, nous avons vu la semaine dernière, nous parle de son ambition. Quelle était son ambition? De connaître Jésus-Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ. Voilà quelle est son ambition. Jusqu'à expérimenter dans sa vie la puissance de sa résurrection, la conformité à sa mort et la communion de ses souffrances. Ça, c'est son ambition. Mais dans les versets que nous avons lus qui suivent, il va plus loin que d'affirmer une ambition. Il va ici dire comment il va, ce qu'il va mettre en œuvre pour atteindre cette ambition. L'ambition ne suffit pas toute seule. L'ambition en elle-même n'a pas beaucoup de puissance. Il faut aussi qu'il y ait d'autres choses qui viennent pour qu'elle puisse se réaliser. Ce qu'il dit à la suite de cela, au verset 12, il dit, ici je relis, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et quand on lit ces quelques versets, on voit bien ici que l'apôtre Paul est un homme qui est en train de poursuivre quelque chose. Il dit je suis porté vers l'avant et je cours. Il est à la poursuite de quelque chose. Poursuite, je pourrais dire, de la connaissance vraie de Jésus-Christ. Et le titre de notre message ce matin, c'est vraiment la poursuite assidue, on pourrait dire à la poursuite assidue de la connaissance de Jésus-Christ. Il ne suffit pas juste d'ambitionner connaître Christ. Il faut poursuivre même cette connaissance. Et il dit plusieurs choses qui sont instructives pour nous. Alors bien sûr, cette partie de la lettre est est une autobiographie un peu. L'apôtre Paul parle de lui-même. Mais c'est ainsi que le Saint-Esprit a voulu nous enseigner, nous consigner ces choses. Et même si Paul parle de lui-même, il parle de ce que nous devons, l'attitude que nous devons avoir, de ce que nous devons faire. Verset 15, nous n'avons pas lu, mais il dit « Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. » Donc nous sommes appelés à avoir la même pensée que lui. Et si vous êtes dans quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même. Et puis verset 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc quand nous lisons ces choses, il est important de considérer que ça n'est pas juste l'histoire ou l'ambition de l'apôtre Paul ou la manière avec laquelle il poursuit cette ambition qui nous est exposée, mais c'est un modèle qui nous est donné aussi pour que nous puissions le suivre et le mettre en pratique dans notre propre vie. Alors comment se fait donc cette poursuite assidue ou opiniâtre, on pourrait dire, de la connaissance de Jésus-Christ? Premièrement, cette poursuite, on le voit, nécessite une juste vision de son état spirituel présent. Il faut, quand on veut poursuivre Christ de cette manière-là, être lucide, on pourrait dire, sur son état spirituel présent. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait. Regardez au verset 12, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Peut-être que la première réflexion qui pourrait venir, lorsque nous lisons l'histoire d'un homme comme l'apôtre Paul, c'est un gars qui est quasi parfait quand même. On peut pas atteindre un tel niveau dans sa consécration. Il dit des choses qui sont vraiment très très profonde. Il a une attitude qui est exemplaire. Il prie dans cette lettre, par exemple, il prie pour chacun des membres de l'Église. Il dit « Je prie pour vous tous, je remercie Dieu pour vous tous. » Il les aime tous. Il dit « Je vous chéris tous de la tendresse de Jésus-Christ. » il les porte un à un devant Dieu dans la prière. Il parle de sa vie et de la plénitude de sa vie en Jésus-Christ. Il dit « Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vis ou que je meure. » Il dit « Christ est ma vie et la mort met un gain. Il dit tout ce qu'il a, dans le chapitre 3, tout ce qu'il a rejeté afin de pouvoir suivre Jésus-Christ. Et c'est pas les moindres choses, hein. Tout ce qu'il était auparavant, tous les privilèges qu'il a eus, etc. Il dit que tout cela, il regarde cela comme de la boue dans le but de connaître et de suivre Christ. Son témoignage à Rome est exemplaire. Alors qu'il est en prison, l'évangile se propage, hein. Et il dit que tous savent que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Donc il a un témoignage exemplaire même dans cette prison à Rome. Et nous dirions certainement qu'un tel homme est un homme parfait. Vers chapitre 4, il dira qu'il sait vivre dans l'abondance et qu'il sait vivre dans la disette, qu'il a appris en tout et partout à se contenter de ce qu'il a ici. On pourrait continuer et lire dans d'autres endroits ce qu'il dit, hein. Par exemple, en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, il parle de quelqu'un qui a été enlevé jusque dans le paradis, hein. Et bien sûr, c'est qu'il parle de lui-même ici. Et on dit, mais pour arriver à ces choses-là, il faut la quasi-perfection. Quand il parle de sa connaissance de l'évangile, il dit ceci en Éphésiens chapitre 3. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Une profonde connaissance de l'évangile, de la doctrine de Jésus-Christ, du salut, de la justification par la foi, de la sanctification. Toutes ces choses, il les connaît. Il les connaît. Mais lorsqu'il parle de lui-même, bon, si nous parlions, nous avons été obligés d'écrire, peut-être nous aurions mis en avant toutes ces choses, mais lorsqu'il parle de lui-même, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection. Et au verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Quand il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, il ne dit pas, je ne pense pas comme nous pourrions dire, je ne pense pas. Je ne pense pas que je l'ai saisi, mais peut-être que je l'ai saisi, hein. Je pense pas avoir le bac, mais peut-être que je l'ai, hein. C'est-à-dire, on est dans une incertitude. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, j'ai estimé les choses. Il sait. C'est une certitude qu'il dit ici. Je ne l'ai pas encore saisi. Il dit, je ne suis pas encore arrivé. Hein, je ne suis pas encore arrivé. Il est lucide sur, on pourrait dire, ses limitations spirituelles. Il écrit des choses extrêmement profondes, mais lui-même, il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. C'est ce qu'il dit en 1 Corinthiens chapitre 13 et au verset 12. Il est lucide. Il a une vision juste sur son propre péché et sa propre nature de pécheur. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et puis il écrit à Timothée et il dit, cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Le premier. Quand il se considère lui-même, il dit, je n'ai pas encore remporté le prix, je n'ai pas encore atteint la perfection. Il est même lucide sur ses besoins spirituels aussi. Il est conscient de son besoin de lire. L'apôtre Paul est en prison dans la deuxième épître à Timothée. Là, il est vraiment à la fin de sa vie. Il attend quasiment son exécution. Il est là c'est un vieillard, amoindri probablement, dans le froid. Il dit à Timothée ceci, il dit, viens plus vite auprès de moi, il lui dit. Il lui dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé chez Troas à Carpus. Et, chez Carpus, pardon, à Troas. Il dit, et les livres, surtout les parchemins. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça? les brûler pour se réchauffer dans la... Non, pas du tout, c'est le manteau qui allait le réchauffer. Il voulait encore lire. Hein. Il maintenait à jour son programme lire pour grandir. Hein. Il lisait, même à la fin de sa vie, il réclamait encore les parchemins pour pouvoir lire, parce qu'il estime qu'il n'est pas encore arrivé et qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Et en fait, on voit que plus on est éclairé spirituellement et plus on est conscient de son imperfection spirituelle. Plus on est éclairé spirituellement et plus on prend conscience de son imperfection spirituelle. Paul ne met pas en avant ses réalisations. C'est pas, il ne dit pas ici voilà ce que j'ai fait, etc. Mais il dit qu'il n'est pas encore arrivé. Quand vous allez sur un site, vous cherchez une entreprise pour des travaux, etc., vous avez toujours la rubrique « Nos réalisations ». Et vous allez voir ce que l'entreprise a réalisé, parce que c'est là-dessus que vous vous basez pour savoir ce qu'elle vaut aussi. Mais l'apôtre Paul, lui, il dit toutes ces choses, il les regarde comme de la boue, comme une perte. Et il dit « Je ne suis pas encore arrivé. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. » Il s'agit ici d'un raisonnement, d'une estimation, d'un calcul qu'il mène. Et souvent, ce qui freine, qui peut nous freiner dans la poursuite de l'ambition spirituelle, de la poursuite de la connaissance de Jésus-Christ, c'est que nous voyons déjà arriver. Un peu comme l'apôtre Paul, ce qu'il écrit, je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit ceci aux Corinthiens, je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 4. Et il dit verset 8, il dit « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner. Puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions par vous. » Il dit là, vous êtes déjà arrivés, quoi. Pour vous, vous avez déjà atteint tout ce qu'il y a à atteindre. Ça n'est pas la bonne attitude à avoir. Jésus avait dit la même chose aux pharisiens lorsqu'il parlait avec eux. Vous vous rappelez, peu après qu'il ait guéri l'aveugle-né, Jésus leur dit « Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui voient ne voient point, que ceux qui ne voient et que ceux qui pardon pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et quelques pharisiens sont venus et puis ils lui disent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Et Jésus leur répond « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons » et c'est pour cela que votre péché subsiste. Et ce qu'il dit ici, quand on se maintient déjà dans une position où on est arrivé, on n'est pas aveugle, on voit, je connais ces choses, eh bien, cela montre que voilà, on n'est pas en train, bien sûr, de progresser, qu'on ne fait pas preuve de maturité spirituelle. L'apôtre Paul nous montre ce que c'est que la véritable maturité spirituelle. Consiste à avoir une juste vision, une vision lucide de notre propre état spirituel, à considérer qu'on n'est jamais arrivé et qu'on n'a pas encore atteint la perfection. À l'église de Laodicée, Jésus dit « Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Donc un obstacle vraiment à la poursuite assidu de la connaissance de Christ, c'est l'image que nous pouvons nous faire de nous-mêmes, que l'on peut se faire de soi-même. Deuxième chose, on peut voir ici que Paul fait. Alors, regardons le verset 13, il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir reçu, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. » Voilà ce qu'il fait ici. Donc, deuxième chose ici, il montre que cette poursuite nécessite de se concentrer sur un but unique. Poursuivre la connaissance de Jésus-Christ nécessite une focalisation de l'esprit, de la pensée, une concentration sur ce qui est essentiel. L'objectif unique et précis que l'apôtre se fixe ici, et c'est lequel ? Il dit « je fais une chose ». Et l'expression « je fais » n'est pas dans le texte original. Ça a été rajouté par les traducteurs pour... Bon, c'est tout naturel, on le comprend comme ça, mais l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, mais une chose. Mais une chose. Il insiste là-dessus. Donc c'est assez dynamique ici comme phrase, hein, dans ce qu'il dit. Une chose. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Donc la plupart des hommes font mille et une choses à la fois. Hein. On parle de courir plusieurs lièvres. Hein. On fait une chose, on commence ici, là, et puis finalement, on s'aperçoit que on n'arrive pas souvent à grand chose à cause de la multiplicité des objectifs. Mais l'apôtre Paul, dans sa vie chrétienne, avait un seul objectif, un seul, celui de connaître profondément Jésus-Christ. Et il, comme ça, c'était son objectif. Il se focalisait sur ce qui était vraiment essentiel pour la réalisation de cet objectif-là. Le sage Salomon nous dit ceci, il dit « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. » Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul fait. Il regarde en face, il se dirige, il considère le chemin sous lequel il est et il ne se laisse distraire ni à gauche ni à droite. Mais il va vers ce but. Quel est cet objectif? Il dit, dans ce texte que nous avons lu, regardez encore au verset 14, il dit « Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et il parle donc ici de l'appel de Dieu qu'il a reçu de la part de Dieu. Il a été appelé par Dieu. Mais appelé à quoi? À quoi est-ce que le croyant est appelé? Ici, il n'y a pas à être apôtre, il l'était bien sûr, mais ce n'est pas ça le but ultime, pas à être prédicateur, pas à être évangéliste, mais à connaître Jésus-Christ dans une relation intime, à être transformé en l'image de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit lui-même dans l'épître aux Romains. Je vous lis Romains chapitre 8, verset 29, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Voilà. Paul dit, c'est ça donc l'appel de Dieu, que je sois transformé à l'image de Christ. Alors c'est ce que je désire, être transformé à l'image de Christ. Et c'est ce que je vais poursuivre comme objectif. Dans d'autres 1 Corinthiens 1:9, à un autre endroit, il dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà à quoi Dieu appelle ce qu'il saisit et ce qu'il offre. Il les appelle à la ressemblance à Jésus-Christ, à la communion avec Jésus-Christ. Le désir de Paul, c'est d'être ce que Dieu l'a appelé à être. Ce que Dieu a projeté comme dessein concernant le croyant, eh bien, c'est ce qu'il désire et qu'il recherche avec la plus grande force ici. Mais on voit aussi ce que Paul dit, on pourrait considérer ce que Paul dit dans le même chapitre, au verset 20 et 21, regardez, Philippiens 3, 20 et 21, il dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur et seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant, comment ? Semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà quel est le projet de Dieu. C'est pas de nous rendre riches, c'est pas de nous rendre beaux, c'est pas de nous rendre grands, etc. C'est pas ce que vous voulez, hein. C'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul recherche ici. Et c'est ce sur quoi il est concentré. Ça devient son ultime, son but unique. Et comment il le fait? Il le dit dans ce passage, regardez, il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir reçu, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Donc on peut dire qu'il le fait en ne se laissant pas contrôler par le passé. Bien sûr, Paul, quand il dit « oubliant ce qui est en arrière », il n'est pas en train de dire qu'il est amnésique, hein, qu'il faut tout oublier et ne plus jamais se souvenir de rien du tout. Lui-même, il a donné son témoignage plusieurs fois, hein, et il a exprimé comment Dieu est intervenu dans sa vie. Et dans ce même chapitre, il parle de sa vie passée. Quelques versets plus haut, il parle de ce qu'il a été. Donc, il n'a pas oublié qui il était, ce qu'il a été, ni ce que Dieu a fait, bien sûr, dans sa vie. Mais il appelle, par ailleurs, le croyant aussi à se souvenir du passé. Souvenez-vous de ce que vous étiez en ce temps-là, sans Dieu, sans espérance, sans foi, etc. Ennemi de Dieu par vos pensées. Il dit, il ne faut pas oublier ce que vous êtes, ce que vous étiez, pardon. Mais ce qu'il dit ici, c'est que il ne faut pas laisser le passé contrôler la vie présente. L'idée est d'avoir l'attitude du coureur qui n'a pas les yeux fixés derrière. Il dit, je cours. Il prend la métaphore de l'athlète qui court sur une piste et qui regarde droit devant lui. Vous n'avez jamais vu un athlète dans un sprint regarder à l'arrière pendant qu'il court. Ou peut-être même penser, je pense que, on ne sait pas ce qu'il y a dans leur tête, mais on peut savoir qu'ils ne pensent pas à leur dernière défaite. Ils ne pensent pas à leur dernier succès non plus. Ils sont focalisés sur ce qui est sur la ligne de mire là-bas devant. Et l'apôtre Paul, c'est la même image qu'il veut renvoyer ici. Il dit, moi, eh bien, j'oublie toutes les choses. Quelles étaient tes bonnes, quelles étaient tes mauvaises, quels étaient tes échecs, quels étaient tes succès. Il dit, je ne laisse pas ma vie contrôlée par ces choses-là. Alors, il ne donne pas le détail de ce qui, des choses qui sont en arrière, mais au verset 4 et 8 que nous avons lu, du chapitre 3, il dit qu'il regarde toutes choses comme de la boue, donc on peut considérer qu'il parle aussi de ces choses-là, mais qu'il parle aussi à la fois des privilèges naturels qu'il a eus, de ses succès dans l'évangélisation, des nombreuses églises qu'il a implantées, des difficultés de son parcours, toutes les souffrances qu'il a subies à cause du ministère. Tout cela, il les maintient à une juste place. Il dit, j'oublie ces choses, je ne laisse pas ces choses m'accaparer. On peut être paralysé par des échecs passés, mais on peut être aussi paralysé par des succès passés. Parfois, on est plongé dans... Je me rappelle quand il y a des gens qui vivent comme ça. À mon époque, ils parlent de choses... Chaque fois qu'ils parlent de bénédictions, c'est toujours de bénédictions qui sont dans le passé. Et comme si Dieu ne fait rien dans le présent. Et cela dénote souvent un manque de maturité et de vie même, parce que Dieu agit continuellement et chaque jour. Et donc, on peut être ici... prisonnier quelque part de son passé, nostalgique. Il y a qui sont nostalgiques de leur ancien pasteur. Ah ouais, chez nous c'est comme ceci. Oui, on ne doit pas oublier toutes ces choses, bien sûr, mais on ne peut pas laisser ces choses contrôler notre vie présente ici. Donc Paul dit ici, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Et le sens de se porter vers ce qui est en avant, c'est vraiment l'idée d'être étiré vers l'avant. Quand vous voyez les sportifs dans le sprint, le corps est penché vers l'avant, le bras est vers l'avant. Les pieds sont ce qu'il y a, je crois, presque le plus à l'arrière. Mais l'être est tendu, étiré vers le but. Et quand ils arrivent sous la ligne d'arrivée, s'ils sont côte à côte, vous voyez souvent, ils essaient de plonger la tête en avant. Il y en a même qui sont tombés déjà, j'ai vu, qui sont tombés tellement ils se sont poussés à l'avant, ils ont fini par chuter sur la ligne d'arrivée. Mais c'est ainsi que l'on court. Et l'apôtre Paul dit, c'est ainsi que l'on mène la vie chrétienne aussi. Le chrétien doit être tendu vers les choses de Christ. Cette connaissance de Christ, cette communion avec Christ doit être ce qui le pousse le plus vers l'avant, ici. Et donc, ici, il montre que cette poursuite nécessite vraiment d'être focalisé, d'être concentré sur une chose et d'avoir cette mentalité de laisser chaque chose à sa place. Le passé, c'est le passé. Il faut pouvoir s'en servir quand on en a besoin. Mais il ne faut pas laisser le passé contrôler la vie présente. C'est le futur et le chemin qui reste à parcourir qui doit focaliser la pensée présente. Jamais l'athlète ne compte le nombre de kilomètres qu'il a déjà fait. Il regarde ce qu'il lui reste à faire. Il met toute son énergie pour ce qu'il lui reste à faire. Et puis troisièmement, l'apôtre Paul montre que cette poursuite de la connaissance de Christ exige des efforts, constants et intentionnels. La poursuite de cette connaissance de Christ exige des efforts constants et intentionnels. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors bien sûr, Paul est conscient de ce qu'il est, de son état spirituel présent. Il dit, je ne suis pas encore arrivé, même qu'il ait connu une conversion spectaculaire, même qu'il ait connu, qu'il ait fait toutes ces choses. Il dit, je ne suis pas encore parfait. Paul est conscient aussi qu'il faut rester concentré sur un but en ne laissant pas le passé venir, ni succès, ni échec venir envahir le présent et l'empêcher de continuer sa course. Mais il montre ici aussi qu'il faut fournir des efforts de manière intentionnelle et constante. Il dit, je cours vers le but. Spurgeon disait que je connais beaucoup de personnes qui se disent imparfaites, mais semblent assez satisfaites de l'être. Elles se disent imparfaites comme, je ne suis pas encore arrivé à la perfection, mais restent dans cet état, ne font rien pour s'en sortir. Paul va fournir des efforts pour progresser dans sa vie spirituelle. Il dit ici, il montre ici l'énergie qu'il déploie. Il n'est pas satisfait de ce qu'il est spirituellement. Il ambitionne beaucoup plus et il met toute son énergie. Je cours, verset 12 et verset 14. Il dit deux fois, hein. Je cours, verset 12 et verset 14. Et le mot traduit par courir, il est traduit autrement, et souvent autrement dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Parfois, il peut être traduit par « rechercher hein. », mais ici, il est traduit par un autre mot qu'on trouve déjà au chapitre 3 et au verset 6. Alors, regardez chapitre 3, verset 6. Ici, qu'est-ce que l'apôtre Paul, quand il parle de ce qu'il était auparavant ? Verset 5, il dit « Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisien, et quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Je ne sais pas si vous savez quel mot et ici traduit par « je cours un peu plus bas hein ». C'est le mot « persécuteur ». Persécuteur de l'Église. Vous savez, quand il poursuivait les chrétiens, quand il les pourchassait, jusqu'à ce qu'il les trouve et qu'il les fasse jeter en prison, il avait une détermination à chercher ces gens pour combattre cette secte. Et il dit « cette même détermination que j'avais pour détruire les chrétiens, c'est celle avec laquelle je cours pour saisir Christ. » Il dit parce que j'ai été saisi, j'ai été appréhendé par lui. Donc il parle ici de l'énergie avec laquelle il recherche cette connaissance. Ça n'est pas qu'une simple ambition, ça n'est pas qu'un simple désir. Il y met autant d'énergie pour poursuivre Christ qu'il a mis de l'énergie pour pourchasser et détruire les chrétiens avant qu'il ait été saisi par Christ. Donc cela exprime vraiment la ferveur avec laquelle Paul recherche Jésus-Christ. Et puis, il montre ici aussi son souci d'efficacité dans cet effort. Ce n'est pas simplement qu'il fournit des efforts, mais c'est qu'il cherche la manière d'être la plus efficace possible. Parce qu'il dit, je cours pour tâcher de le saisir. Il dit pas « je cours » simplement. Il dit « je cours pour tâcher de le saisir ». Verset 14, il dit « je cours vers le but pour remporter le prix ». C'est-à-dire qu'il y a une recherche d'efficacité aussi dans ce qu'il fait. Il fournit des efforts, mais pas n'importe comment. D'accord ? Il part pas à l'aventure. Il l'avait déjà dit dans une même métaphore, en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, je vous lis. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez, dit-il, de manière à le remporter. C'est-à-dire qu'il y a une manière avec laquelle il faut faire les efforts. Il faut calculer cette manière. Laquelle sera la plus efficace pour atteindre le but que je me suis fixé ici ? Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible. Il dit, moi donc, je cours non comme à l'aventure. Je frappe non comme battant l'air. Il cherche à être efficace dans ce qu'il fait. Et dans la recherche de sa connaissance de Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas ici, bien sûr, de faire des efforts dans tous les sens, mais de s'assurer vraiment de l'efficacité de ces efforts. Et l'efficacité, ici, consiste à saisir ce pourquoi Christ l'a saisi. Il dit « J'ai été saisi pour être transformé à l'image de Jésus-Christ et je fais tous mes efforts le plus efficacement possible pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances pour être conforme à lui dans sa mort, le connaître dans une profonde et intime communion parfaite. » Et cette vocation céleste, bien sûr, cette ressemblance à l'image du Christ, c'est ce qu'il recherche le plus. Les efforts fournis doivent toujours tendre dans la vie chrétienne vers la réalisation de ce que Christ, de ce que Dieu a projeté d'accomplir dans notre vie. L'apôtre Pierre disait la même chose. Il dit, à cause de cela même, de quoi il parle? Il faudrait lire donc 2 Pierre chapitre 1, versets 1 à 4. Il parle des promesses que l'on a en Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, au moyen de la piété, de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, qu'en lui nous avons les plus belles et les plus précieuses promesses. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu, à la connaissance, à la maîtrise de soi, à la patience, à la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la connaissance de Dieu, d'accord? Mais il dit, faites tous vos efforts pour mettre en œuvre ce qui contribue à la connaissance de Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici, c'est exactement ce que Paul dit. Il dit, ce pourquoi Christ m'a saisi, c'est ce que je désire le plus et je vais faire tous les efforts nécessaires, toute l'énergie, je vais la mettre pour pouvoir atteindre, réaliser ce que Dieu veut réaliser en moi. Donc, pour poursuivre efficacement, poursuivre assidûment, poursuivre avec opiniâtreté la connaissance de Jésus-Christ, il faut, on l'a dit, être conscient que l'on n'est pas encore arrivé. Être conscient de notre propre état spirituel actuel. Il faut aussi, comme l'apôtre Paul le fait, se focaliser sur ce qui est essentiel et ne pas laisser le passé venir troubler venir empêcher notre progression spirituelle. Mais aussi, il faut mettre toute son énergie, toute sa force au service de cette cause, de cette connaissance de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai comme moyen, il faut le mettre. Alors bien sûr, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire des choses. Mais l'énergie que j'ai, tout ce que je fais, je dois pouvoir le mettre vraiment au service de Jésus-Christ, que ce soit le domaine dans lequel j'évolue. Je terminerai avec quelques mots d'application. La vie chrétienne commence d'abord par un appel de Dieu. Ici, l'apôtre Paul le montre clairement. Il dit, on ne peut pas vivre la vie chrétienne avant d'avoir été saisi par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, je cours et je tâche de le saisir. Quelle est la raison qu'il donne à cela? Parce que j'ai été saisi par Christ. Donc c'est toujours Christ qui est à l'initiative des choses dans la vie. On ne peut pas servir Dieu avant d'avoir été saisi par Dieu. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est pas chrétien de vivre en chrétien. Il faut d'abord être chrétien. Il faut d'abord être dans la course pour courir. Il faut d'abord avoir été saisi par Christ pour chercher à saisir Christ. Et l'un des plus grands problèmes souvent consiste à vouloir grandir en tant que chrétien avant d'être un chrétien. Donc il est important de prier pour que les gens se tournent vers Christ, annoncer l'évangile. Donc c'est ça le premier besoin. C'est pas qu'ils vivent comme chrétiens qui est le premier besoin, c'est que Christ les touche en premier. Alors êtes-vous chrétien? C'est la première chose à régler. Je dis pas, est-ce que vous êtes là depuis longtemps, est-ce que vous venez, ça fait des années que vous venez. Non, êtes-vous chrétien? Avez-vous été saisi par Jésus-Christ? Comment cela se voit que l'on a été saisi par Jésus-Christ? Si on regarde la vie de l'apôtre Paul, c'est que celui qui a été véritablement saisi par Jésus-Christ cherche à saisir Christ. celui qui a été saisi par Jésus-Christ, cherche à saisir Christ. Deuxièmement, nous devons connaître l'appel que Dieu a pour ses enfants et poursuivre cet appel. L'apôtre Paul connaissait le dessein de Dieu. Et il dit dans Romains, on l'a lu, hein, que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés à être conformes à l'image, je résume, conformes à l'image de son Fils. Et connaissant cela, il poursuit ce but-là. Nous ne poursuivons pas des fois ce que nous devrions poursuivre parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas les desseins de Dieu. Le chrétien se doit de connaître, d'étudier, de méditer les desseins de Dieu pour lui et de les poursuivre. Et de les poursuivre. Ce que l'apôtre Paul nous montre ici. Il écrivait aux Éphésiens ceci. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve avec tous les saints. Donc, celui qui est appelé doit chercher à connaître ce qui s'attache à cet appel. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici? Paul dit, Dieu est en train de nous transformer à l'image de Christ. Alors, c'est ce que je désire, être transformé à l'image de Christ. Troisièmement, le progrès dans la vie chrétienne exige énergie, méthode et stratégie continuelle. Le progrès dans la vie chrétienne exige énergie, méthode et stratégie continuelle. Si nous voulons progresser, il ne suffit pas de désirer. On peut désirer beaucoup de choses. Je désire, on peut chanter « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ». Ça ne va pas changer grand-chose si nous faisons que chanter cela. Si nous ne mettons rien en œuvre pour accomplir ces choses. L'apôtre Paul au chapitre 2 disait aux Philippiens, qu'est-ce qu'il leur disait? Travaillez à votre salut, car, dit-il, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Certes, Dieu agit en vous, mais il leur demande aussi de travailler à votre salut, ici. Et donc, on n'arrivera à rien si on ne met pas au point des stratégies et de la méthode. L'apôtre Paul disait, de même que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, qu'est-ce que on doit faire? Livrez vos membres comme esclaves à la justice. C'est-à-dire, pour atteindre la sainteté, il y a une méthodologie, des choses à mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Il faut de la stratégie, de la discipline. Quels sont vos projets? Quels sont nos projets pour l'été? Vacances, plage, soleil, je sais pas, d'accord? Quels sont nos projets pour nous approcher davantage de Jésus-Christ pendant ce temps de vacances que nous aurons? Qu'est-ce que nous allons mettre en œuvre? Est-ce que nous avons déjà réfléchi à comment nous allons faire? C'est ce que Paul dit ici. Et quand il dit qu'il court, il a déjà réfléchi, parce qu'il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est une méditation. Il a déjà réfléchi à ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire, ce dans quoi il va s'engager, quelles sont les lectures qu'il aura, par quel chemin il va passer, combien de temps il va mettre dans la prière, combien de temps il va mettre dans la lecture. Ces choses se décident en amont. Si elles ne sont pas décidées, si on n'a pas de stratégie, on n'arrivera jamais à rien. Le chrétien ne doit pas vivre au petit bonheur la chance. Il doit agir avec méthode, avec sérieux. Il est quelque part un méthodiste. Hein. Il doit appliquer les choses. Il doit lire, il doit se discipliner. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je le tiens esclave. Hein? Il n'écoute pas son corps, hein, mais le monde nous dit, écoute ton corps. Hein? Laisse-le parler. Hein? Suis ton corps. Non, l'apôtre Paul dit, mon corps, je le soumets, je le tords, je le discipline. Parce que je ne veux pas qu'il devienne un obstacle dans ma recherche de Jésus-Christ. Et pour cela, il faut de la méthode, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que nous avons mis en place pour lutter cet été contre les tentations, par exemple? Hein? Est-ce que nous avons décidé que nous n'allons pas regarder ceci? Ou que nous n'irons pas dans cet endroit-là? Si nous ne le faisons pas maintenant, nous n'allons pas le faire et nous allons chuter. Daniel, un jeune homme, il avait résolu en son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Mais il avait résolu quand? Je crois que c'était avant d'arriver à Babylone. C'est pas quand il dit, qu'est-ce que je vais faire? Non, non. Tout de suite, on a compris qu'il y avait déjà une résolution qui avait été prise en amont. Et donc, on n'arrivera pas à poursuivre cette connaissance de Christ, à moins d'y mettre tous les efforts avec la stratégie et les méthodes nécessaires. Mais on n'y arrivera pas non plus par nos propres efforts. Il faut prier que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que l'apôtre Paul dit plus loin que tout ce qu'il fait, c'est par grâce. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, dit-il. Et nous pouvons prier pour que, par sa grâce, Dieu nous aide. Dieu nous aide à mettre ces choses en pratique. Mais il nous faut souligner que notre maturité spirituelle se voit dans l'énergie, la méthode, la stratégie que nous mettons en place pour suivre aussi Jésus-Christ. Si nous ne faisons pas ces choses, eh bien nous ne sommes pas sur le chemin de la progression et de la maturité spirituelle. Que le Seigneur nous aide. Je relis encore ces quelques versets pour terminer. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Prions. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ta parole et pour l'exemple que tu nous donnes ici de ton serviteur, l'apôtre Paul. Donne-nous de ne pas considérer ces choses comme étant réservées à une personne particulière, mais à nous soumettre à ce qui nous est dit même dans ce passage, d'être les imitateurs et de chercher comme cet apôtre a cherché à te ressembler, à y mettre notre effort, à y mettre notre détermination. Aide-nous dans ces choses, Seigneur, que nous ne nous contentions pas simplement d'avoir une ambition ou de désirer te connaître. Mais donne-nous la force qui vient de toi par ton Esprit Saint, afin que ces choses soient mises en application dans notre vie, que nous soyons vraiment déterminés à nous soumettre à ta volonté. Merci encore pour ta grâce et pour la force que tu donnes à chacun, pour la gloire de ton nom. Amen.